France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Tania Moreau. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Act of God de Gossip. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier avec une réécoute de l'épisode du 6 décembre dernier dans lequel Marie nous faisait visiter la ville du Havre à l'occasion des 150 ans de l'architecte Auguste Perret. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Sofiane Aktib à la prise de son. Bonsoir Tania Moreau.
Bonsoir.
Bonsoir Madame l'académicienne. On a appris hier que vous aviez été élue ainsi que Nina Schindrez dans la section de peinture de l'Académie des Beaux-Arts. Voilà une double très bonne nouvelle. Bon, je crois que je ne dois pas avoir le droit tout à fait de vous appeler académicienne tant que vous n'êtes pas entrée sous la coupole. Mais ce sera l'occasion d'une belle soirée. Dire qu'on peut voir jusqu'au 28 avril une exposition de vos œuvres sous le titre « Dans les vents de l'oubli » au Fluctuaire, à Paris. Il y a aussi un livre intitulé encore une fois, paru le mois dernier, aux éditions alternatives, en écho à cette exposition. Jusqu'au 27 avril, c'est un medley que propose la galerie Cesson et Bentière à Saint-Étienne. Medley, c'est le titre de cette exposition. Il y a en ce moment aussi certaines de vos pièces qui sont exposées à Riyad, à la Biennale. On l'évoquera. En tout cas, beaucoup de belles occasions pour vous accueillir, pour essayer de faire pénétrer nos auditrices et auditeurs dans votre recherche, dans votre univers. Alors, une quarantaine de minutes qui vont être beaucoup trop courtes. On va tenter quand même de donner quelques clés pour nous approcher de votre œuvre. Alors, dire tout d'abord que vous êtes la fille de Martine et Marcel Moreau, tous deux résistants, père avocat, collectionneur d'art moderne, mort en héros à la toute fin de la guerre. Vous aviez 3 ans. À ce moment-là, votre mère, elle était journaliste, femme d'affaires, publiciste, autrice. Une vie très très remplie, ce qui ne l'empêchait pas de vous amener chaque semaine au musée du Louvre pour aller y découvrir des œuvres. Elle essaie de suivre, je crois, le programme de vos cours d'histoire. Elle vous sensibilise donc à l'art. Et puis il y a ce poster de Miro dans votre chambre. Et puis un choc aussi quand vous voyez les œuvres de Cézanne à l'Orangerie. Là, vous avez 9 ans à ce moment-là, Tania Moreau. Et puis, vous déménagez à Düsseldorf et vous voilà, jeune fille, jeune femme, à fréquenter les cercles artistiques. Un moment où il se passe quand même beaucoup de choses, autour notamment de Joseph Beuys, du groupe Fluxus. Vous assistez à des performances de John Cage. Mais à quel moment, Tania Moreau, vous êtes-vous dit que vous seriez artiste ou peut-être que vous étiez artiste? Parce qu'on a l'impression que l'art vous accompagne depuis votre naissance, quasiment.
L'art, effectivement, l'art des autres m'accompagne depuis ma naissance. Et c'est à la suite d'une dispute maritale que j'ai décidé de devenir artiste. Je suis allée m'acheter du matériel et j'ai commencé. Et évidemment, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout et j'ai plus de temps pour personne. Et donc, évidemment, ça aboutit à un divorce.
Ah, ça commence comme ça.
Ça continue comme ça.
Alors, pour nous replonger quand même dans ces années allemandes, Tania Moreau, je propose d'écouter le tout début d'une lecture, une lecture mise en musique par Grégory Corso, de son poème « Bombe ». C'était écrit en 58 à une époque où la grande peur, c'était celle de la bombe atomique.
« Budger of history, break of time, you bomb, toy of universe, grandest of all snatched sky, I cannot hate you. Though I hate the mischievous thunderbolt, the jawbone of an ass, the bumpy club of 1 million BC, the mace, the flail, the axe, catapult da Vinci, tomahawk Cochise, flintlock kid, dagger Rathbone, ah, and the sad, desperate gun of Verlaine, Pushkin, Dillinger, Bogart, and hath not St. Michael a burning sword, St. George a lance, David a sling, bomb, you are as cruel as man makes you, and you're no crueler than cancer. All man hates you, They'd rather die by car crash, lightning, drowning, falling off a roof, electric chair, heart attack, old age, oh bomb. They'd rather die by anything but you.
C'est le tout début de cette lecture du poème Bomb qui vous replonge, Daniel Moreau, dans des grands souvenirs.
Oui, et surtout, ce que je veux dire, et le souvenir que ça évoque en moi, c'est que ce poème avait la forme de la bombe d'Hiroshima.
Champignon atomique, voilà. Dans la version imprimée.
Voilà, et donc, d'un seul coup, je me suis dit, peut-être que c'est aussi une des influences que j'ai eues d'une manière inconsciente, parce que je voyais beaucoup, beaucoup de choses qui étaient la poésie concrète, Crique. J'étais très bien entourée.
Très bien. Alors, pour autant, avant de vous exprimer par différents médias, on va y venir, quand vous rentrez à Paris, vous mettez donc à peindre des tableaux. Beaucoup de tableaux, il paraît que vous pouviez en peindre 60 par mois, dit-on. Une première exposition chez Unini, mais deux ans plus tard, en 68, vous allez à la Documenta de Kassel, cette grande exposition d'art contemporain qui se tient tous les 5 ans en Allemagne. Et à votre retour, vous brûlez toutes vos toiles dans la cour de l'hôpital de Villejuif. Et vous allez ensuite décliner votre art sur différents supports. On va essayer d'évoquer ces différentes facettes, mais en commençant par ces initiations. C'est dur à dire. Initiation room, ces chambres de méditation, ces chambres à soi, qui nous invitent à prendre notre temps, à reprendre des forces. Alors, il y en a une, vous m'avez dit avant que l'émission ne commence, à Riyad. Ces espaces, quand vous les créez, donc on est à la toute fin des années 60, début 70, vous pensez qu'ils répondent à quel besoin, Tania Moreau ?
Ils répondent à un besoin d'avoir une chambre à soi. Répondent aussi, en fait, c'était l'époque où la méditation, l'Inde, avait une énorme influence sur nous tous. Quand la galerie Rive Droite m'a demandé si je voulais faire une exposition, j'ai dit oui, et j'ai fait une chambre de méditation pour que tous mes copains puissent venir méditer avec moi, ou planer plutôt que méditer, parce que personnellement, je ne médite pas. Ce qui était important pour moi, c'était la proposition, c'était une chambre de plus dans nos appartements standards. Et c'est-à-dire une chambre à soi. Une chambre qui ne sert à rien d'autre qu'à être avec soi-même.
Ça, c'est une idée qui est toujours d'actualité. Ouais. C'est une idée qui peut changer le monde, mais changer le monde, c'est aussi changer le regard, et ça va notamment passer chez vous, Tania Moreau, par un travail sur les écritures, les graphies. Quand on dit les écritures, on pourrait penser à la Bible, mais je parle de la façon des graphies. D'abord, des phrases courtes écrites sur des bâches de plastique, sur des bâches de chantier que vous mettez sur les mêmes dimensions que les murs. Et puis plus tard, et c'est ce qu'on connaît davantage évidemment, ces wall paintings avec d'immenses lettres peintes en noir, très étirées, rectilignes, très rapprochées, qui donnent une sensation d'illisibilité. Mais là encore, alors que ce sont des mots qui viennent souvent de poèmes, de livrets d'opéra, ou de différents textes. Mais là encore, c'est l'idée de prendre le temps. Si on regarde vraiment, si on prend le temps, on lit. Vous faites apparaître, en fait, en faisant mine de faire disparaître.
En fait, avant de travailler sur des peintures murales, avec les phrases les lettres allongées dont vous parlez, j'ai surtout fait une intervention urbaine avec le mot « ni » 54 fois dans Paris, et qui faisait 3 mètres sur 4.
Ce sont des panneaux publicitaires. Hein.
Voilà. Et donc là, je voulais dire, parce que « ni », c'est le facteur de vérité, ni blanc, ni non noir, ni blanc, ni non blanc, ni noir, ni non noir. Donc il est toujours facteur de vérité, et par là, je voulais dire que j'étais d'accord avec rien de ce que la société occidentale me proposait. La société de l'avoir plutôt que de l'être. Et ensuite, effectivement, j'ai commencé à travailler avec la contre-forme, ou on va dire plus simplement le négatif des lettres. Ce qui m'intéressait, même sur, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la perception. Et sur les bâches en plastique que vous avez mentionnées tout à l'heure, étaient inscrites d'une manière tout à fait lisible des phrases mettant en cause ou pointant vers ce qui était en train de se passer au niveau de la perception de l'œuvre. Pour moi, l'œuvre, c'était le mur sur lequel étaient les bâches en plastique. Par la suite, effectivement, quand j'ai commencé à utiliser, à étirer les lettres, j'ai du reste quelques suiveurs à l'heure actuelle, mais les premières, disons que le Centre Pompidou a fait une fiche en disant que la première fois que la pièce qui est à la BPI, c'est-à-dire « What you see is what you get » a été créée, elle a été créée en 88, eux l'ont acquise en 92. Donc je suis obligée de dire un peu, de remettre un peu les choses historiquement, parce que quelquefois on inverse la proposition. Donc là, en fait, la première pièce que j'ai faite, c'était aussi sur la perception. What you see is what you get. Mais après, j'ai commencé à travailler avec les slogans de manifestation, parce que c'était mon monde. J'allais manifester, etc. Et pour moi, un des slogans les plus, enfin, qui me correspond le mieux, était la phrase de Martin Luther King, qui est une phrase d'espoir, de désir d'une humanité paradisiaque. I have a dream. Cette phrase, je l'ai déclinée dans 25 langues. Et là, à Fluctuart, dans l'exposition de Fluctuart, j'ai repris donc I Have a Dream, qui est décliné en 11 langues. Principalement, j'ai choisi 11 langues des pays où il se passait à l'heure actuelle des problèmes, genre en Iran, en Chine, en Israël, dans les pays arabes. Et quand même, j'ai alors, il y a en anglais évidemment la phrase de Martin Luther King, mais il y a aussi en Gujarati la phrase de Martin Luther King, le Gujarati, pourquoi ? Parce que c'était la langue de Gandhi et que Martin Luther King avait été voir Gandhi avant de lancer sa campagne. Voilà. Et ensuite, dans l'exposition de Fluctuart, il y a deux pièces très grandes dont on va dire, le prétexte est une phrase de Hans Ki, c'est un poète yiddish dont la traduction est « Dans l'immensité salée des larmes humaines s'ouvre un abîme terrifiant ». Et mettre cela en face de « I have a dream » pour moi était vraiment très très important. Et le titre de l'exposition vient aussi d'un poème yiddish de Soutzkever, c'est « Dans les vents de l'oubli ».
On reviendra sur le yiddish tout à l'heure, mais pour rester sur cette idée de changer notre regard sur le monde, c'est aussi une des leçons de René Dumont, agronome de formation, qui était le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en 1974. On va l'écouter, un court archive au micro de Jacques Chancel en février 1977.
Il faut absolument changer nos modes de vie, il faut changer nos conceptions, il faut changer toute notre mentalité, il faut changer nos relations des hommes entre eux, sinon la civilisation nous mène à la mort.
Donc pour vous, la croissance est un mythe suicidaire ?
Eh bien la croissance, nous ne sommes pas contre toute croissance parce qu'il y a encore des gens qui ont faim.
Vous êtes objecteur de croissance.
Objecteur de croissance, c'est le titre de la nef de Lucifer. Et je pense qu'il faut envisager une autre croissance, il faut envisager une autre vie, il faut réfléchir ce dont nous avons besoin réellement, produire ce dont nous avons besoin réellement, mais ne pas produire de quoi satisfaire des désirs illimités. Enfin, on disait en 1848, le manifeste communiste, Karl Marx disait, on passera au communisme quand on aura une machine capable de satisfaire tous les besoins, à ce moment-là, chacun prendra deviendra Ota, il aura tout ce qu'il voudra. Ben, on s'aperçoit maintenant que le désir augmente plus vite que la production, qui a pourtant augmenté plus vite encore que Karl Marx ne le pensait. Quand on a une résidence secondaire, on en veut 2 ou 3. Quand on a une automobile, on en veut 3 ou 4. Ensuite, on veut accrocher un yacht à Saint-Tropez, et j'en ai vu qui coûtait plus d'1 milliard d'anciens francs. Bon, à des gens qui ne payent pas beaucoup d'impôts, il faudrait regarder ça d'un peu plus près. Il faut donc limiter la consommation en France, limiter la consommation des plus riches, parce que le Français moyen consomme 300 fois plus de métaux et d'énergie que le paysan du Maasai, de l'Est africain, ou que le paysan du Bihar indien. 500 fois plus d'énergie et de métaux consommés à New York que dans l'Inde ou au Bangladesh. Ces décalages, c'est terrifiant.
René Dumont, 1977. Tania Moreau, c'est bien se dire à quel point sa pensée était actuelle et que c'est nous, je parle de l'ensemble de nos sociétés qui sommes terriblement en retard. Quelle importance a eu cette pensée de René Dumont sur vous ?
Alors, ça a eu l'importance qu'à un moment donné, je suis devenue végétarienne. Malheureusement, j'ai pas continué. On va dire que je suis flexitarienne. Mais c'était très important parce que il m'a fait découvrir quelque chose auquel j'avais jamais pensé, c'est que si on réduisait notre consommation de viande et qu'à la place des prés où les vaches
se nourrissent,
On pouvait nourrir l'humanité entière et qu'il n'y aurait pas de famine, alors que le problème à l'heure actuelle, comme avant du reste, sont les pauvres. Je veux dire, c'est la famine, c'est des gens... Et du reste, on voit avec cette consommation atroce que les gens mangent n'importe comment, deviennent malades parce qu'ils ne peuvent pas manger autre chose, je veux dire... Donc ça a eu une influence plus sur ma pensée personnelle que sur mon travail.
Bien
J'ai
sûr.
Pas travaillé là-dessus.
Non, mais une sensibilisation qui passe aussi par Konrad Lorenz, le biologiste de formation, prix Nobel, inventeur de l'éthologie, grand défenseur de la cause animale. Mais ça me permet quand même d'évoquer une partie de votre travail vidéo qui a souvent évoqué ces questions de la nature mise à mal, alors que ce soit dans Ad Infinitum, on voyait des baleines filmées de très près qui apparaissaient, qui disparaissaient dans ces eaux trouble. Je pense aussi à Once Upon a Time en 2012, avec cet univers machinique qui attaque le vivant comme ça. Avec la vidéo, Tania Moreau, alors je fais des sauts dans le temps, mais c'est votre œuvre qui m'y incite. On sent que vous autorisez, ou j'ai l'impression que vous autorisez l'émotion davantage que sur d'autres travaux qui sont beaucoup plus conceptuels, on va dire. La vidéo, elle répond à un besoin chez vous de toucher au sensible.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est pas au départ, ce qui a fait que tout a basculé, ce n'est pas la vidéo, c'est David Krakauer. Et en fait, j'ai vu une émission, on disait « Le roi du klezmer est à Paris » et David Krakauer, que je ne connaissais absolument pas. Donc, j'ai eu le coup de foudre et le lendemain, je suis allée chez Paul Boecher pour m'acheter une clarinette. Et je pensais qu'en se mettant vraiment à la clarinette, en 3 mois, je serais une experte du klezmer. Malheureusement, je ne suis pas du tout douée pour les instruments traditionnels. Mais David Krakauer, chez qui j'ai fait une masterclass, m'a appris des extended techniques de la clarinette. Et voilà, bon, ça c'est une chose. Ouais. Et après, j'ai appris, je mixe, etc. Et je fais de la noise. Mais à partir du moment où j'ai commencé à apprendre la clarinette, j'avais un professeur israélien de clarinette, et évidemment, on a commencé à parler, j'ai commencé à parler, tout s'est lâché, un peu comme on dit, si vous voulez, que les minimalistes américains, après l'Holocauste et après Hiroshima, on ne pouvait plus rien faire en art, et on était obligé d'exprimer les murs qu'on avait en nous, finalement.
Vous pensez à Richard Serra, qui était hier.
Exactement. Pas que.
Non, mais
Kenneth Noland.
Non, mais ils sont nombreux, mais je pense à lui, hélas, pour une triste actualité.
Exactement. Et donc, grâce à David Krakauer, je me suis autorisée à exprimer du ressenti. Et la première vidéo que j'ai faite, c'est la montée vers le Struthof. et qui est une vidéo, bon, je ne vais pas décrire...
La caméra est sur la plage arrière d'une voiture, voilà. Et ça, qui avance.
Que j'ai choisi, non, elle est sur le côté, j'ai choisi le climat.
Oui.
Il fallait qu'il neige et il fallait qu'il pleuve.
Bien sûr.
Et grâce à la pluie, il y a des larmes sur la vitre de la caméra. Et je me suis imaginé que j'étais un klezmorine qui courait de village en village, etc. Et j'ai demandé à Claudine Movsessian de me faire une composition avec un accent klezmer, mais pas du klezmer. Et elle m'a fait une... Claudine Movsessian, c'est une très très grande... clarinettiste qui a joué pour Apergis, etc. Et donc, elle m'a fait la composition. Je ne lui ai pas dit... C'est très important ce que je vais dire par rapport à la suite. Je ne lui ai pas dit combien durait la vidéo. Et je lui ai dit, fais-moi une composition de 8 minutes. Et quand elle est venue chez moi, la composition terminée, je lui ai demandé, est-ce que je peux couper dedans ? Et donc, j'ai coupé à 6 minutes 30. Et je ne voulais pas lui dire qu'il fallait faire 6 minutes 30 pour pas qu'il y ait la cadence. Et donc là, il y a une skisse de la vie, du souffle, et juste au moment où on voit l'entrée du camp de concentration. Mmh. Et il y a 8 secondes de silence. 40 ans plus tard, ou peut-être 20 ans plus tard, j'ai découvert la poésie de Soetskever, qui était témoin au procès de Nuremberg, et au moment où on lui a posé la première question, il a eu 11 secondes de silence. Si, à l'époque, j'avais connu Soetskever, j'aurais mis 11 secondes.
Vous n'en étiez pas loin, Tania Mouraud. Mais avec la vidéo, cela étant aussi... Parlons aussi de forme, c'est important en vous recevant. Il y a presque quelque chose de la pratique picturale qui revient parce que vous travaillez, vous étalonnez, enfin vous travaillez beaucoup vos images.
Alors ce qui se passe, si vous voulez, c'est que comme vous le disiez tout à l'heure, ma mère m'a emmenée au Louvre d'après mon programme d'histoire pendant 10 ans.
Et c'est donc, génial.
Donc j'ai eu une connaissance d'une certaine histoire de l'art, mais pas intellectuel, émotionnel. Je dis, la peinture coule dans mes veines. Et donc, tout mon regard... Bon, j'étais aussi à une époque, j'étais jeune, à une époque où il n'y avait pas la télévision. Et donc, mon rapport à l'image, c'était le Louvre. Et quand j'ai commencé... Alors, pendant 10 ou 12 ans, je n'ai fait que de la vidéo. Enfin, j'ai fait que des créations... en vidéo, mais moi le but c'était de parler de la destruction de la nature, de la destruction animale, de la destruction des livres, de la destruction de l'être humain. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que au niveau artistique, je fais tout moi-même. J'ai pas d'assistant, j'ai des assistants pour la régie, mais pas pour l'artistique. Donc je filme moi-même, je monte moi-même et je fais le son moi-même, sauf pour la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, Sightseeing. Et en fait, je fais l'étalonnage parce que je ne supporte pas une image qui ne soit pas étalonnée de la même manière que la peinture traditionnelle. Et donc les gens disent « Oh là là, on dirait de la peinture ».
Voilà. Ah oui, bah c'est une très très grande beauté. Mais à propos de peinture, il y a aussi, j'essaye d'évoquer différents aspects, mais il y a quand même une pratique photographique chez vous, Tania Mouraud, qui est importante. Mais alors, qu'est-ce que permet l'image fixe par rapport à la vidéo pour vous ?
Alors, mon fils dit qu'en vidéo, je suis un photographe qui fait de la vidéo. Et c'est vrai. Bon, j'ai commencé par faire de la photographie. Et pour moi, la photographie, c'est vraiment la peinture du 21e siècle.
Maintenant.
Ouais. Et donc, je tire moi-même. Maintenant, je tire moi-même. À une époque, j'ai tiré avec... oui, on n'a pas le droit de dire où. On peut ?
Bon, oui.
Allez, au laboratoire Janvier, avec une tireuse qui s'appelait Corinne. Et on s'entendait, on avait besoin de... Vraiment, je n'avais pas besoin de dire beaucoup de choses. Et malheureusement, ou heureusement pour elle, elle a eu une promotion. Et j'ai été avec des tireurs. Et ce n'est pas pareil. Et donc finalement, j'étais aussi fatiguée, je me suis dit, bon, Je vais imiter les artistes américains et je vais m'acheter une grande imprimante professionnelle. Et depuis, je gère absolument tout parce que je me suis rendu compte que sur Photoshop, j'étais aussi bonne que pour mon travail. Et pour moi, c'est très important. Comme j'ai fait beaucoup de photographies argentiques et que dans la photographie argentique, l'horreur absolue, c'était un aplat. Donc, dans ma photographie digitale, il n'y a aucun aplat. Il y a des petites nuances à tel point que les gens disent oh, « On croirait que c'est de la peinture, est-ce que vous avez retouché ça avec de l'aquarelle et tout ?» Non, c'est de la photographie pure.
Très importante aussi. Mais vous l'avez évoqué dans vos vidéos, il y a ce travail sonore qui est très important parce qu'il est... le plus souvent dissocié tout à fait de l'image, parce que son plus image, ça crée une troisième forme dans l'esprit du spectateur, du regardeur de vos vidéos. Vous faites parfois le son en live pour accompagner vos vidéos. Tania Moreau, vous avez été aussi formée au mixage à l'IRCAM, ce qui n'est pas une mauvaise école. Mais comment est-ce que vous choisissez justement, vous l'avez évoqué pour ce premier film, Sightseeing, mais comment est-ce que vous choisissez les sons, les matériaux sonores de vos vidéos ?
Alors en fait, quand je montais, parce que pour l'instant je ne fais pas de vidéo,
oui, mais
quand je montais, à force de plonger finalement dans ce que je voulais dire, à un moment donné s'imposait le son. Et j'étais très très favorablement influencée au niveau de ma recherche sonore par Michel Sion.
Grand théoricien du son avec l'image. Hein.
Voilà. Et donc, qui m'a donné le fait de plonger dans ces théories, m'a donné une liberté que peu de gens ont concernant le son et l'image. Alors, il faut que je divise, parce qu'il y a les vidéos qui sont des installations et les vidéos de performance. Et c'est deux choses totalement différentes. Donc, dans les vidéos d'installation, c'est le processus que je viens de décrire. C'est au fur et à mesure du montage, s'impose le son. Et s'il y a déjà un son, je le triture et je sais exactement ce qu'il faut que je mette. Enfin, c'est des problèmes de composition, finalement. Pour les sons de performance, pour la performance, déjà, les vidéos sont noires et blancs. J'ai ce que j'appelle un drone, c'est-à-dire qu'il y a une image qui vient toujours, qui est tout le temps la même. Enfin, qui est, par exemple, une sorte de feu d'artifice en noir et blanc. Mais c'est pas des feux d'artifice comme ça. C'est en fait, c'est de la compagnie Feu qui avait fait à Metz un feu d'artifice qui s'étendait sur 100 mètres. Et donc, j'ai filmé ça et c'est extraordinaire comme matériau. Et dans ce matériau-là arrivent d'autres vidéos ou des images fixes du genre Hitler regardant la
Tour Eiffel,
la Tour Eiffel ou des vidéos sur les animaux de l'association, j'ai oublié le numéro, 242, je crois, ou je ne sais plus.
Les abattoirs.
Oui, les abattoirs.
214,
merci.
Me souffle-t-on à l'oreille.
Et des vidéos d'enfants morts par les migrants qui sont sur des bateaux de fortune. Enfin, des vidéos de l'actualité et de l'histoire. Et j'improvise. En fait, j'ai à peu près 1000 samples et j'improvise live. Et pourquoi et d'où vient ça, finalement, cette idée d'improviser? Et je dirais après que, en fait, je m'en fiche complètement de ce qui va sortir, parce que moi-même, je ne sais pas. Mes samples ne sont pas nommés. J'ai des colonnes de samples, et puis, au fur et à mesure, j'appuie, et parce que je veux être surprise, comme le public. Je ne veux pas... être là, la personne qui sait et qui montre à ce pauvre public...
Votre technicité, votre virtuosité...
Voilà. Donc moi, j'ai envie de m'amuser et voilà. Quelquefois, je m'ennuie, quelquefois, je trouve ça formidable, etc. Mais l'idée m'est venue, enfin, l'idée inconsciemment m'est venue, parce que lorsque j'avais 4 ans et demi, j'étais à la campagne et je me souviens du premier film que j'ai vu, Le dernier des Mohicans. Et en fait, c'était dans une grange, sur un drap tendu. Et il y avait un pianiste. Mmh. Et voilà.
La boucle est bouclée.
Et la boucle est bouclée.
Alors de la musique, justement, on va en écouter avec votre choix musical pour cette émission, Tania Moreau, qui s'est portée sur une œuvre d'Osvaldo Golijov, The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, dont on va écouter un extrait interprété par le Kronos Quartet. Pourquoi ce choix, en quelques mots ?
Parce que, d'abord, le Kronos Quartet, ensuite David Krakauer, et parce que j'ai écouté cette musique en boucle pendant des mois et des mois et des mois, et j'aurais voulu pouvoir la jouer.
En attendant, on écoute le prélude de cette œuvre. C'était le prélude de The Dreams and Prayers of Isaac the Blind d'Osvaldo Golijov par le Kronos Quartet, votre choix musical pour cette émission, Tania Moreau. Mais pour poursuivre l'exploration de votre œuvre, je voudrais vous faire écouter un extrait de l'émission que j'avais faite avec Christian Boltanski en février 2021. On évoquait le début du parcours de son exposition au Centre Pompidou qui s'ouvrait par un tableau de jeunesse. Et tout de suite, après, dans l'espace, il y avait cette vidéo « L'homme qui tousse », on écoute Christian Boltanski.
« L'homme qui tousse », il y avait donc juste à l'entrée ce tableau, qui est le tableau sauvé, grâce à mai 68, d'un homme dans une chambre enfermée. Et « L'homme qui tousse », c'était aussi le premier film que j'avais fait, peut-être un an après. Et ces deux œuvres se ressemblaient. Et « L'homme qui tousse », aujourd'hui, pour moi, j'étais tout même très très jeune, est un film un peu d'adolescence. Mais disons, il marque le début de quelque chose. Et puis, c'est le début de la, Le travail à la fin n'est pas très joyeux. Et ce film est déjà une sorte de vision d'horreur d'un homme enfermé qui est en train de cracher son sang. Et donc, il est aussi précurseur. Disons, on ne change pas. Moi, je crois, en tout cas pour moi, c'est que je répète toujours la même chose et que je fais toujours la même chose. Mais c'est comme si on fait un voyage et qu'on peut raconter ce voyage de manière différente. Et donc, tout ça, c'est le même point de départ. Mais on peut regarder ce même point de départ de manière différente. Et donc, effectivement, déjà, là, entre ce film qui doit être avant le petit livre où il y a ce texte qui est vraiment précurseur, est déjà un peu la même chose. Et tout ça, il n'y a qu'une seule œuvre, quoi. Il n'y a qu'une seule œuvre et pour moi, de toute façon, mais ça, je crois que c'est comme ça pour presque tous les artistes, il y a un trauma de départ et après ça, toute sa vie, on va essayer de parler de ce trauma ou de s'en guérir.
Alors, comme Christian Boltanski, Tania Moreau, vous êtes né pendant la guerre, je l'ai dit, vos parcours artistiques donc sont construits dans les mêmes temps et se croisant parfois. Alors, la famille Boltanski, on le sait, est marquée par la Shoah. La vôtre l'est, j'ai dit au début de notre entretien, par l'engagement de vos parents dans la résistance, et engagement qui a coûté sa vie à votre père. Dans quelle mesure, alors, ce qu'on vient d'entendre dit par Christian Boltanski sur le traumatisme originel, est-ce que vous pensez que ça fait écho à votre pratique ?
Complètement. Parce que si vous voulez, mon père, moi ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est que mon père soit mort dans la résistance. Mais en réalité, toute la famille de mon père est restée dans les camps. Et donc, au lieu d'être la fille d'une victime, je suis devenue la fille d'un héros. Et ça, c'est pour la construction de soi, c'est très important. Par contre, le traumatisme, il y a deux traumatismes quand même pour ma génération, c'est l'Holocauste et Hiroshima. Mmh. Et quand j'étais jeune, on ne parlait que d'Hiroshima. Et c'était un poids terrible. Et donc finalement, là j'étais très, très émue d'entendre Christian Boltanski parler de ce film que je connais. Mmh. Moi-même ayant eu la tuberculose, et ma mère aussi, et mon frère aussi, on était séparés dans des sanatoriums différents. Quand il parle de ça, c'est aussi une réalité de l'époque. Lui, il parle d'un traumatisme aussi physique. S'il parle de ça, c'est qu'il a connu... tout le monde connaissait. Moi, je me souviens qu'à partir du moment où on a détecté que j'avais la tuberculose, plus personne n'avait le droit de m'approcher. J'étais une gamine. J'étais une gamine et je n'ai pas compris pourquoi.
Pour poursuivre sur votre travail sur les écritures, j'aurais évoqué quand même cette série des Schmues.
Schmues.
Ouais, moi, je dis Schmues parce que pour que les gens puissent l'écrire. Schmues. Schmues.
Ça veut dire conversation en yiddish.
C'est initié en 2019, ce qui est assez récent, finalement, dans votre production, même très récent, Tania Moreau. Pourquoi elle naît, cette série ? De quoi elle naît, à ce moment-là ?
Alors, en fait, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, et j'ai reçu un mail disant « Apprenez l'alphabet yiddish en X leçons », et je me suis dit «
Comme la clarinette, quoi. »
Voilà. Exactement. Et donc, c'était... Nadia Dahan Rothschild qui enseignait ça, et ce qui a été formidable, c'est que c'est une personne extrêmement cultivée qui en plus a fait la simile yiddish, mais qui est très cultivée et qui par exemple nous apprenait la lettre P avec Picasso. Et donc moi ça m'a plu, je me sentais dans mon élément, et après j'ai foncé parce que c'était mon occupation sociale. Et en fonçant, j'ai découvert une littérature qui correspondait, qui exprimait verbalement tout ce que je ressentais. Et donc, j'ai carrément foncé là-dedans et j'ai appelé cette série Schmues, qui veut dire conversation. Parce que j'ai aussi tendance, dans mes titres, à mettre un peu, à prendre du recul.
Oui, mais moi, ce qu'on entend aussi, ce qu'on entend ou ce qu'on voit quand on voit ce titre, on voit la mue. Et il y a quelque chose comme ça aussi qui est très important dans ces œuvres. C'était que le yiddish est une langue disparue, mais toujours présente, et que votre œuvre, On reparle encore de ça. On arrive presque à la fin de cet entretien, mais c'est la disparition et l'apparition. C'est toujours cela chez vous.
En fait, c'est une langue qui, effectivement, est en voie de disparition, puisqu'il y a eu 6 millions de locuteurs qui ont été assassinés. Mais, pendant le Covid, il y a eu, sur Duolingo, 300 000 personnes qui se sont mises au yiddish.
Ah ouais?
Oui. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, pourquoi aussi, parce qu'il a fallu qu'il y ait d'autres raisons que juste le Covid, c'est qu'en lisant le yiddish, c'était, un, la langue des bonnes femmes, parce que les hommes apprenaient l'hébreu. Deux, c'est une langue qui n'a pas de territoire. Et ça, c'est extraordinaire, de se dire que c'est une langue universelle. Trois, comme dirait Bashevis Singer, le prix Nobel de littérature, c'est une langue dans laquelle il y a très peu de mots pour la guerre. Et quatre, c'est une langue, c'est la langue des voleurs. Et ça, ça m'a plu.
Quatre. Bonne raison. Voilà. Alors, beaucoup de raisons d'aller découvrir et approfondir ce qu'on a essayé très rapidement ce soir de faire mieux connaître à nos auditrices et auditeurs. Il y a Fluctuart à Paris, il y a la galerie Cesson et Bentière à Saint-Étienne, il y a cet ouvrage, encore une fois aussi, qui vient de paraître aux éditions alternatives. Alors, si on est du côté de Riyad, il y a la Biennale, et puis il y aura bientôt au Macval aussi une ou plusieurs de vos pièces dans l'exposition collective qui va s'ouvrir à la fin du mois d'avril. Juste un mot quand même de réaction, cette élection à l'Académie des Beaux-Arts, comment est-ce que vous la vivez, Tania Moreau?
Très bien. Très, très bien, pour deux raisons. La première raison, évidemment, ça me fait plaisir de rapporter à la famille le premier prix. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une activité possible d'aider de jeunes artistes à rentrer dans des résidences extraordinaires et de faire une action sociale auprès des artistes, de participer, pas seul, de participer au programme de l'Académie des Beaux-Arts, à ce programme d'action sociale pour aider des artistes en difficulté, etc.
Voilà, et enfin, deux femmes qui entrent en même temps dans la section peinture de l'Académie des Beaux-Arts, vous, Tania Moreau. Et
yes, we can.
Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Si Beth Ditto est de passage à Paris le 3 juin prochain, il y a fort à parier qu'elle se rendra à l'Élysée-Montmartre pour assister au concert des Bikini Kill. Ce groupe de punk est l'un des fondateurs des Riot Girls, ce courant féministe radical né en réaction aux violences et à l'hégémonie patriarcale, y compris au sein de la communauté punk. Comme d'autres groupes Riot Girl, Bikini Kill a commencé à se produire dans les années 90 à Olympia, dans l'état de Washington. Cette petite ville est devenue la capitale d'un mouvement aussi révolutionnaire qu'émancipateur, attirant nécessairement quelques jeunes en quête de liberté. Arrivée de son Arkansas natal en 1999, Beth Ditto y forme son groupe Gossip, avec ses amis d'enfance, Nathan Audeshell et Cathy Mendoza. Rapidement remarquée pour le charisme et la voix de sa chanteuse, l'efficacité de ses chansons dance rock et son énergie débordante, le groupe connaît le succès au cours de deux albums sortis en 2006 et 2009. Mais punk et industrie allant rarement de pair, le groupe sort un album de trop en 2012, puis disparaît. Pour toujours, pense-t-on, jusqu'à ce qu'il reprenne le chemin des studios pour enregistrer un nouvel album, Real Power, qui renoue de plein fouet avec son éthique et son état d'esprit. Produit par le mythique producteur Rick Rubin, cet album permet de retrouver un groupe qui fait beaucoup de bien, comme sur le morceau Act of God, notre son du jour. C'était Act of God de Gossip, le groupe qui sort en concert au Festival La Nuit de l'Erdre le 6 juillet, au Festival Pause Guitare Albi le 7, au Vieille Charrue à Carré le 11, au Festival Musilac le 13 et à Rock en Seine à Saint-Cloud le 22 août.
France Culture, le grand tour, le grand, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours au Havre ce soir et je vous propose une promenade sur les pas de l'architecte Auguste Perret, dont nous commémorerons en 2024 les 150 ans de la naissance. Lise, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accompagner ce matin au Havre, sur les pas d'Auguste Perret. Alors là, on vient de partir de la gare.
On part de la gare, on a les quartiers sud sur notre gauche, c'est-à-dire une partie ancienne de la ville, la partie 19e siècle du port qui a été donc rénovée, remise au goût du jour, et pour les docks Vauban refaits par les architectes Reichen et Robert. Stop en cours de route et nous sommes ici à l'entrée du projet de reconstruction puisque la reconstruction du Havre couvre 150 hectares. C'est un élément très très important de ce qui a été confié à Auguste Perret, c'est-à-dire qu'on ne confie pas à un architecte ce qu'on lui demande habituellement, un îlot ou trois ou cinq avec des immeubles à reconstruire ou un aménagement de logements ou de structures. Mais on lui confie une ville à reconstruire, puisque ce sont 150 hectares du centre-ville du Havre qui ont été détruits en une seule fois, en 2 heures très précisément, le 5 septembre 1944, de 18 à 20 heures, par des bombardements alliés.
Alors là, on vient de descendre de voiture. Où est-ce que vous nous emmenez ?
Donc, nous allons aller découvrir un des îlots de la reconstruction du Havre, puisque la reconstruction du Havre comprend 100 îlots de 100 logements chacun. Donc 100 par 100, ça fait 10 000. Hein, voilà. Et 10 000 logements pour une moyenne de 4 personnes par logement. Donc le relogement pour 40 000 personnes. Voilà ce que c'est que la reconstruction du Havre. Donc on a un îlot qui est d'ailleurs maintenant classé au monument historique. Les gens du Havre ont toujours utilisé le numéro des îlots sur les plans de la reconstruction pour désigner leur lieu de vie. Donc c'est l'îlot V40. Donc les gens ici disent « j'habite dans le V40 ». Et tout le monde sait ce que c'est en gros. Hein, voilà, quand on est à Vray, on sait que les gens habitent en centre-ville. Voilà. Et on choisit Perret pour la modernité de ses constructions. Il a utilisé toute sa vie uniquement le béton comme matériau, ce qui va permettre au ministère de la Reconstruction de se démarquer par rapport à la version précédente, puisque là, on se lance dans la modernité.
En utilisant un matériau qui n'est pas encore utilisé partout.
Voilà, hein, qui à ce moment-là est encore quelque chose d'inhabituel. Ce sont 80 000 personnes qui ont perdu leur logement en 2 jours de bombardement au Havre, et ces 80 000 personnes représentent la moitié de la population. Donc, bien sûr, on veut construire quelque chose de beau, disait Perret, et de durable.
Alors là, vous mettez la clé.
Je mets la clé, mais alors, vous voyez, la clé d'origine, dans la porte d'origine, et nous entrons donc dans le hall d'un des immeubles. Donc nous quittons la cour intérieure de l'îlot qui était ouverte sur la rue. On ne veut plus de cour d'îlot fermée qui était ce que l'on construisait avant-guerre. Et là, nous entrons dans le hall de l'immeuble. Donc nous sommes dans un des tout premiers immeubles construits, un des 4 premiers îlots construits dans cette reconstruction. Ce que vous voyez autour de vous est très, très sobre, semble modeste. Et j'ai envie de vous dire, il y a quand même un travail très important sur les bétons, puisque vous avez au moins 5 sortes de textures de béton autour de vous. Alors bien sûr, les guides du Havre sont des guides qui parlent beaucoup de béton, et en général avec beaucoup d'enthousiasme, puisqu'il a quand même fallu, on nous a demandé de travailler aussi
en visant les publics havrais qui ont très longtemps souffert du dénigrement de la beauté de leur ville, pour leur expliquer l'histoire de leur ville, les bombardements et l'urgence humaine que représente cette reconstruction sont très importants à comprendre pour prendre un petit peu de distance par rapport au béton et comprendre par contre à quel point le béton a été utile.
Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, cet immeuble là où on se trouve est extrêmement contemporain.
Ah mais oui, bien sûr, bien sûr.
Alors là, on vient de rentrer dans un des appartements qui semble tout de suite très lumineux.
Alors ici, nous entrons dans l'appartement témoin, donc vraiment une reconstitution d'un des intérieurs de la reconstruction. Hein, et la première chose que nous découvrons, c'est la colonne de béton qui nous accueille, donc du béton bouchardé, avec des belles arêtes, en béton lissé. Donc de la texture de béton, puisque cette colonne est laissée visible. Donc on suit encore les principes hygiénistes qui ont été mis en pratique avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on veut donner aux gens de l'air, de l'espace, du calme et du soleil. Voilà. On va faire un petit tour.
Oui, donc c'est vraiment une reconstitution, comme si encore une famille habitait là, la table est mise.
Alors, Gabriel est un concepteur de mobilier que Perret connaît bien, et Gabriel lui crée cet ensemble de mobilier que vous voyez autour de nous ici. Une table avec des chaises, mais aussi donc, un coin repas, un coin salon, tout ça c'est nouveau. Le buffet, les petites tables basses, et puis cette
les meubles de rangement, une desserte.
La desserte, et vous avez, donc, on a cette présentation de ce logement assez ouvert. Voilà ce qu'on découvre très précisément ici.
Alors voilà, on vient d'arriver devant cette église Saint-Joseph.
Alors, une église Saint-Joseph extraordinaire, 50 000 tonnes de béton. Je crois que je vous ai tout dit en une expression, on pourrait garder juste ça comme ça. Ici, voilà cette église avec donc à l'intérieur du béton brut de décoffrage, c'est-à-dire du béton sur lequel on voit les traces des planches de bois qui ont été utilisés pour créer les poteaux que nous voyons tout de suite.
Ah, c'est toujours très impressionnant. Quand on rentre dans cette église, oui. Il y a des vitraux colorés de petite taille. Enfin, c'est des petites ouvertures, mais qui donnent à cette église quand même quelque chose d'unique.
Il reconstruit cette église et il va réutiliser des plans qu'il avait fait dans les années 20 pour une église Sainte-Jeanne d'Arc à Paris qui ne lui a pas été attribuée. En fait, vous avez ce que j'ai appelé les claustras, ces parois de décoration géométrique percée qui sont les seules fenêtres de l'église. Et le seul endroit, c'est ce que Marguerite Huret va devoir utiliser pour placer ces vitraux décoratifs. Nous avons 12 768 morceaux de verre coloré. Soufflé à la bouche, c'est la technique ancienne. Donc Marguerite Huret a en quelque sorte utilisé la technique du Moyen-Âge pour créer ses vitraux. Parce que ça donne une épaisseur et une irrégularité au verre produit qui permet d'être traversé d'une façon différente par la lumière. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir un petit rayon de soleil et la paroi du sud à notre droite qui contient des belles couleurs très chaudes, jaune, orange, rouge. Et les couleurs sont très très sombres, très foncées, très riches dans le bas des murs, puisqu'elles s'éclaircissent au fur et à mesure pour s'éclaircir encore dans la tour et donner cette impression d'élan de la tour vers le ciel. Mais ces couleurs très riches produisent la lumière dorée, qui est la seule demande que Perret ait faite à Marguerite Huret. Je voudrais que vous produisiez dans mon église une lumière dorée. Alors nous sommes dans une église catholique, et la lumière dorée, c'est le symbole de la résurrection.
Bien, merci beaucoup pour cette visite. C'était
Je vous en prie.
passionnant et on finit ici dans cette église Saint-Joseph. Et en effet, la lumière dorée vient d'apparaître, le soleil
oui,
est de la partie. Merci beaucoup.
Ville. Je vous en prie. Merci d'être venu découvrir notre ville.
Merci à vous Marie Sorbier. On vous retrouve demain dans l'Aveyron pour nous faire découvrir un service d'art à domicile. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.